plein Eric Rolls, vous êtes en pleine répétition de Carmen Intime, cette version très particulière de l'opéra de Bizet, qui va voyager dans un certain nombre de communes du Grand Avignon. Cette proposition, vous l'avez imaginée alors que vous travailliez sur une production classique de Carmen. Alors d'où est venue cette idée de cette version pour quatre voix et un violoncelle à la base ?
J'avais envie d'un peu d'un contrepoint à la Carmen grande forme, effectivement. Je travaillais sur ma première mise en scène de Carmen, en fait, il y a une dizaine d'années. J'étais très intéressé par ce qui se passait à l'intérieur des personnages et par une dramaturgie que j'ai basée vraiment sur la fragilité de chaque personnage. Je pense que ce qui fait la clé de compréhension de cet opéra, c'est que chaque personnage, et Carmen en particulier, qui est souvent vue comme une femme forte, un peu dominatrice, un peu sûre d'elle, etc., je pense en fait, moi, que cette assurance cache une blessure profonde et que c'est très intéressant de travailler sur cette fêlure. Par extension, j'ai trouvé les mêmes types de fêlures dans les autres personnages, José, Micaela et Escamillo. Et j'ai eu envie effectivement de travailler sur un contrepoint qui soit une forme très très petite, très intime, où on puisse se concentrer sur cette question-là, sur cette question de la fêlure des personnages, de leur fragilité, et voir ça au plus près. Donc, c'est-à-dire en même temps créer une forme où les gens sont au plus près des chanteurs, au plus près de la musique, et où ils puissent sentir les choses sans la distance qu'impose un orchestre, un chœur, des gros décors, des costumes, etc.
Par rapport aux personnages, est-ce qu'il y a eu une volonté aussi d'aller à l'encontre des stéréotypes? Puisque Micaela, c'est un peu l'ingénue, la femme pure, et que les deux personnages masculins, ce sont des archétypes virils, masculins. C'est-à-dire, vous avez un soldat et vous avez un toréador.
Je ne suis pas sûr que j'aille vraiment à l'encontre de ça, parce que je pense qu'il y a dans ce sexisme inhérent à l'œuvre quelque chose qui est effectivement qui perdure, même quand on en fait une lecture contemporaine comme celle sur laquelle j'ai travaillé. On est dans un monde où il y a une forme effectivement de machisme, de séparation entre les hommes et les femmes. Et Micaela, effectivement, est au départ une ingénue, mais c'est un personnage très intéressant parce qu'il est peut-être celui des quatre personnages qui évolue le plus au fil de l'œuvre. Il évolue vraiment vers une femme dans la dernière partie de l'œuvre et donc on voit ce personnage se transformer au cours de l'histoire et c'est assez intéressant.
Souvent, Carmen, l'opéra, est joué dans une arène. Là aussi, c'est un stéréotype. Donc on a une figure circulaire. Alors que là, en fait, vous avez opté pour le quadrilatère.
Oui, ça reste une arène, puisque c'est un bac à sable, en fait.
Donc, un ring aussi.
Un ring, oui. Donc, c'est un quadrilatère avec une sorte de succédané de sable à l'intérieur. Donc, on retrouve l'idée, effectivement, d'une surface de combat, mais à quatre côtés, parce que ça correspond aussi à la géométrie dans laquelle on a placé le public tout autour, et aussi à cette idée des quatre personnages, en fait. C'est une corrélation entre le fait d'avoir quatre personnages différents qui s'opposent, et puis les quatre côté du décor qu'on a créé. En enlevant, je veux dire, tout ce qui est le décorum habituel de Carmen, c'est-à-dire la garde montante, les enfants, le défilé de la fin avec tous les toréadors et les matadors et ce genre de choses. Voilà, il ne reste plus que ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire ces quatre personnages et leurs contradictions, les rapports entre eux, les tensions, l'amour qui naît, qui disparaît, la violence qui s'installe. Enfin, oui, on a travaillé beaucoup sur ces notions assez essentielles, assez pulsionnelles, en fait, qui sont un peu inhérentes aussi aux êtres humains, quels qu'ils soient et quelle que soit l'époque dans laquelle on travaille.
Le rôle de Carmen, c'est un rôle pour mezzo-soprane. Donc une mezzo-soprane, c'est une soprane avec un peu plus bas, je dirais. Et vous avez choisi le violoncelle pour accompagner ces quatre voix, qui est un violon un peu plus bas aussi.
Oui, il y a très certainement et consciemment de ma part une corrélation importante entre l'instrument et le personnage principal, qui sera d'ailleurs matérialisé très clairement pour nous par les costumes, c'est-à-dire il y a un costume pour le violoncelliste qui est un écho de celui que porte Carmen. Et je pense qu'il y a effectivement dans cet instrument une forme de féminité, de sensualité, de profondeur, qui est assez proche de ce qui ressort d'une voix de mezzo soprano. En fait, ce violoncelle, l'idée m'est venue de la habanera qui est l'air le plus connu de Carmen. Quand on écoute la habanera, au tout début, il y a des violoncelles qui font pom, 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 comme ça. Et il n'y a que ça pour commencer la habanera. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, si l'essence musicale de Carmen, si la couleur musicale de Carmen, c'était ça.
Alors, le problème avec Carmen, c'est qu'au niveau des airs, on pourrait dire qu'il n'y a que des tubes. Alors là, on a une version qui est quand même sensiblement réduite, puisque l'ouvrage, il fait à peu près 3 heures. Là, le spectacle, il va faire 1 heure, si j'ai bien lu. Est-ce qu'on va retrouver quand même tous ces airs que tout le monde fredonne sans savoir forcément que c'est tiré de Carmen?
Oui, alors ça fait 1h20 le spectacle. Et donc on a le temps en 1h20 effectivement d'entendre la Banera, l'air de Don José, l'air de Micaela et l'air du Toréador d'Escamillo avec quelques coupes, mais quand même on a l'essentiel de ça. Et je me suis même offert le luxe de réintroduire un air qui n'est pas dans la version traditionnelle, mais qui est de Bizet et qui était l'air original de L'amour est un oiseau rebelle. Il y avait une première version de l'air qui a disparu au fil des répétitions à la création et que j'ai réintroduit dans l'œuvre aussi.
Au niveau des voix, on a des jeunes voix. Alors j'ai vu pour les voix féminines, par exemple, la Carmen, c'est une chanteuse qui a travaillé avec Anne Passeo, donc c'est plutôt dans du jazz. Elle a travaillé avec Emilia Giordana, c'est plutôt de la variété. Micaela est interprétée par une chanteuse qui au départ a travaillé dans la gestion et qui ensuite a bifurqué vers l'artistique. Où avez-vous trouvé vos 4 voix? Parce que là, c'est vraiment un quatuor.
Je ne vais pas aller les chercher là où ils étaient là, hein, mais en fait, les 2 chanteuses féminines ont toutes les 2 été lauréates de concours organisés à Avignon, ou proche d'Avignon, c'est-à-dire Axelle Saint-Cyrel a été lauréate du concours Jeunes Espoirs Raymond Dufaux. Donc c'est comme ça que je l'ai découverte et puis qu'on lui a offert ses premiers concerts et puis ce spectacle-ci. Et Lyrielle Benhamer a été lauréate du concours de la mélodie de Gordes. Et c'est là que je l'ai découverte aussi et que du coup je lui ai proposé d'abord un récital dans le cadre des apéro-opéras l'année dernière et puis ce spectacle-ci. Le ténor Étienne de Benazé, je ne le connaissais pas avant, je l'ai auditionné pour le rôle et le baryton qui chante Escamillo, Emery Lefebvre, il est un peu plus âgé, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà fait d'autres spectacles précédemment.
Carmen Intime va être créé ici même, à Vedène, sur l'autre scène, donc dans le Grand Avignon et ensuite il va tourner autour d'Avignon, dans la communauté de communes. Et ce Carmen Intime arrive quelques jours à peine après La Flûte Enchantée, qui a été donnée dans une version participative à l'Opéra d'Avignon. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre ces 2 propositions autour de l'accessibilité au lyrique?
Oui, alors j'allais dire un lien artistique, je ne le vois pas, mais effectivement un lien dans la démarche, rendre plurielles les formes d'opéra pour aller vers une pluralité des publics, certainement, oui. Donc La Flûte Enchantée est un projet qui était participatif et qui était plutôt à destination des familles et des écoles. Ce spectacle-ci est plutôt pour adultes, mais va chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire dans les différentes communes, les différents territoires, dans les salles proches de là où les gens habitent.
J'ai l'impression que vous êtes fasciné par la découverte, parce qu'il y a à la fois cette volonté d'aller trouver, d'aller chercher de nouveaux publics, et en même temps, dans votre programmation, il y a la volonté de nous faire découvrir des pièces qu'on ne connaît pas forcément très très bien. Très prochainement, vous allez signer la mise en scène d'un opéra de Verdi, qui n'est pas vraiment le plus connu qui soit.
Oui, mais moi je crois que la vie, c'est la découverte. Hein. Une vie sans découverte n'a aucun intérêt. Je pense que quand on arrête de découvrir, on meurt. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose... On vit pour ça, pour créer des nouvelles choses, chercher de nouvelles choses, s'enrichir, rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est vrai que dans ma démarche et artistique personnelle et de programmateur, je suis très animé par ça, mais je pense que c'est vital.
Est-ce que le directeur de l'Opéra du Grand Avignon est satisfait de la première moitié de saison?
Oui, oui, je dois dire, on a eu de très beaux événements, très bien reçus du public, avec les productions de Rusalka, par exemple, ou l'heure espagnole, enfin les sortilèges, qui ont été des spectacles très, très bien accueillis. On sent une tendance de billetterie qui est à la hausse, ce qui est un bon signe. Donc oui, on vit une belle année, on vit une belle année, et je pense que l'année 2024 sera encore meilleure, j'espère.
Bien, bonne répétition et bonne représentation.
Merci beaucoup. Beaucoup Michel, à bientôt.